Merci à nos musiciens. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue dans cette église. Bienvenue à la maison de Dieu. Merci parce qu'on va s'y sentir bien ensemble toute la journée. Bienvenue à ce culte dit mission. Les cultes mission sont toujours des cultes un peu particuliers parce que nous avons des invités. Et ce matin, une bienvenue toute particulière à Jean-Marc et Martine. Peut-être que vous pouvez juste vous lever parce que peut-être tout le monde ne vous connaît pas. Jean-Marc et Martine, qui viennent parmi nous ce dimanche, et on les accueille pour dire avec eux à Dieu notre reconnaissance pour le ministère qu'ils ont exercé en France, tous les deux, et que ce ministère s'achève pour eux cette année. 34 ans de ministère en France, Bordeaux, Lyon, Grenoble, quelque chose de magnifique. C'est vrai qu'ils ont été un peu nos envoyés, nous sommes l'église d'envoi, ça fait 34 ans, je me rappelle, qu'on pense, qu'on prie à eux, pour eux. Tout d'abord dans la chapelle, après dans les annexes, puis après dans ces salles ici en bas, où nous prions régulièrement pour nos envoyés, et les Pilloux en particulier. Oui, Mérin et l'église d'envoi de nos amis, nous voulions marquer un peu ce temps, et partager avec eux la Sainte Cène, qui est quand même l'endroit, le repas, comme on l'a appris encore, enfin appris, nous a été rappelé encore à l'étude biblique, c'est cette nouvelle alliance en Jésus-Christ que nous fêtons, que nous rappelons en prenant ce repas tous ensemble. C'est cette communion, c'est ce point culminant à notre avis du culte. Et on voulait que les Pilloux partagent ce repas avec nous parce qu'ils sont à la maison, comme il a déjà été dit. Bienvenue. On va prier pour mettre ce culte entre les mains de Dieu. C'est dans la reconnaissance, Seigneur, que nous désirons te donner ce culte ce matin. Merci car nous pensons que tu es présent par ton esprit au milieu de nous. Tu nous conduis, nous te remettons toutes choses entre tes mains pour ce culte et pour la louange qui t'est due. Nous t'adorons, toi, notre roi. Amen. Amen. Et maintenant, place à la louange.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux,
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Merci Seigneur pour cette bénédiction de louer ensemble ton nom glorieux. Oui, par-delà les locaux de cette église, tu nous appelles à vivre et à faire vivre pleinement ton amour éternel. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble oh, qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être ses lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier, et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme, pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur pour les plans et les dons parfaits que tu connais et diriges dans chacune de nos vies. C'est avec confiance que nous cheminons jour après jour dans ta divine présence.
Oui, c'est bon, ça fonctionne. Alors les enfants, très rapidement, pour vous expliquer pourquoi Jean-Marc et Martine sont ici. Ah, c'est un peu comme si vous aviez des copains qui avaient déménagé très très loin et que vous les revoyez peut-être une fois dans l'année pour un anniversaire. Aujourd'hui, on est très contents. Bon, ah, c'est mieux ? Il y a de l'écho. Sinon, j'ai la...
peut se déplacer.
Ouais, c'est ça. Oui, mieux. Aujourd'hui, les Pilloux, donc Jean-Marc et Martine, parce qu'on dit souvent les Pilloux. Mais... Et donc, c'est comme je disais, et on est très content de les recevoir aujourd'hui, ça faisait longtemps, et ils sont partis en mission un peu loin. La mission, une question justement, qu'est-ce qui, l'un et l'autre, en couple, vous a décidé, vous a amené à partir en mission?
Vous avez combien de temps? Non. Alors, pour faire très court, on a fait des camps missions bibliques. C'était des camps d'évangélisation qui se passaient en France. Et quand on a vu, on traversait des départements, on se dit, dans ce département-là, il y a une église pentecôtiste. C'est bien, il y a une église, mais il n'y en a qu'une. Et certains départements, il n'y avait rien du tout. Et devant cette pauvreté spirituelle qu'il y avait en France, et en Suisse, il y a pour plusieurs villages, une communauté évangélique, une communauté protestante pour chaque village, et une communauté catholique pour chaque village ou groupement de villages. On s'est dit, bon, le ratio, il est vite fait.
Mais au-delà de ça, en fait, c'est à cause de ce qu'on a vécu ici dans l'église. En fait, on a été entouré de gens, soit qui se préparaient à partir, ou soit qui étaient revenus de mission. Donc, en fait, comme on le dira tout à l'heure dans notre temps de témoignage, en fait, c'est un petit peu une forme d'école, d'école laboratoire. Vous voyez, école et laboratoire où on apprenait la réalité. Et à un moment donné, il y a une question toute simple qui s'est posée. Là où on en est dans notre connaissance biblique, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'abord de prendre un temps de formation, une école biblique pour une année, et puis après, l'école biblique nous a donné envie de plus, et puis après, est venue l'idée de partir et d'aller plus loin, quoi.
Excellent. Comme a pu le dire Paul Robert, 34 ans, 35 ans, c'est quoi, on va dire, le secret, ou qu'est-ce qui fait durer comme ça? Parce que alors, moi, ça fait à peine 10 ans que je travaille, je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie. Comment ça se fait? Comment on arrive à 35 ans comme ça?
En fait, on n'a pas toujours été dans le ministère avec Martine. Martine était fleuriste, moi j'étais cadre dans une entreprise de machines outils, d'ailleurs ici à Verrières, le dernier poste, puis avant c'était aux ateliers des Charmilles. En fait, la vie professionnelle, on avait connu ça avant de rentrer dans le ministère. Et là aussi, dans une vie professionnelle, il faut faire preuve de persévérance en se levant tous les matins, être à l'heure, etc. Et après, la question du ministère sur le comment durer au travers de la réalité et des vicissitudes d'un ministère, c'est d'abord savoir que le ministère, ça fatigue. Et ça, j'apprends rien à ceux et celles, parce que le travail fatigue. Mais il faut savoir aussi prendre des temps pour se poser, pour se reposer, de manière hebdomadaire, de manière annuelle. Et en fait, c'est aussi le renouvellement spirituel au travers de la formation continue, au travers de la lecture. Quand on était à Bordeaux, en fait, on écoutait des cassettes audio que des amis en Suisse nous envoyaient. Et c'était un des moyens, à côté de la lecture, qui faisait qu'on se ressourçait, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autres lieux de formation ou de l'inter-église. Et ça, c'était une réalité, quoi.
Alors, on va faire une dernière question, comme vous avez pu le voir. On n'a pas préparé, donc justement, ils font un très bon travail. Un message pour des personnes qui nous écoutent, soit ici, soit via Internet, pour donner envie de partir en mission. Qu'est-ce qui, vous, si vous aviez nos âges plus, nous motiverait à partir en mission? Et qu'est-ce qui, voilà, aujourd'hui, vous voulez transmettre aussi?
Il y a quelque chose qui travaille mon cœur là depuis déjà un certain nombre de jours, au travers de lectures, au travers de rencontres. En fait, on a le privilège d'être libre ici, en Suisse, en France. D'autres frères et sœurs n'ont pas le privilège d'avoir des chants, un recueil de chants, la Bible en 36 000 versions, et de pouvoir partager la scène. Et en fait, de cette liberté, qu'est-ce que nous en faisons? En fait, quand Jésus nous a invités à aller et faire de toutes les nations des disciples, en fait, c'était pas éventuellement vous pourriez aller. C'était pas optionnel, c'était un impératif. Et en fait, cet impératif, il s'adressait pas à des spécialistes missionnaires, il s'adressait aux disciples, où on sait que certains vont puissamment le renier quelques heures après. Et donc, en fait, finalement, cet appel à aller et à rejoindre en fait ceux et celles qui nous entourent, Eh bien, en fait, il s'adresse pour chacun d'entre nous. Donc la question qu'on doit se poser, il n'y a pas ceux qui sont au loin et ceux qui sont ici, qui sont à Mérin. Il y a, pour chacun d'entre nous, on est appelé à être témoin. Donc en fait, quelle est ma zone de rayon? Quelles sont les personnes qu'on est appelé à rencontrer? Le temps de l'Avent, le temps de Noël, est un temps particulier pour nos contemporains. Ce n'est pas seulement les cabanes de Noël où on va pour manger des bonnes choses, mais c'est aussi la réalité et le temps où on peut apporter une parole d'espérance. Dans ce temps qui est super anxiogène, de se dire, voilà, Noël peut apporter une parole d'encouragement pour chacun. Quoi. Et c'est un privilège parce qu'on a encore cette liberté de pouvoir le faire. Quoi.
Merci beaucoup. Alors, je vous remets un petit présent du groupe Mission. Là, il y aura de quoi refaire un peu toute votre carrière. Donc, notamment, une bouteille de Bordeaux, des cardons lyonnais, des noix de Grenoble, et il ne faut pas oublier une bonne tablette de chocolat suisse, parce que c'est votre église d'envoi.
Raymond, est-ce que...
On va peut-être juste bonjour les enfants. Je crois que ce matin, il y a quelque chose qui vous attend. Vous avez perdu
travail.
Donc, on va vous laisser partir avec vos auditeurs.
Raymond qui peut passer.
Vous pouvez venir dans ce que vous allez faire.
C'est devant aussi.
Est-ce qu'on peut fermer peut-être un peu les sorts de côté ? Juste à l'avant.
Voilà. Notre désir, en fait, en
vous. Oh là là.
Lequel je prends, Raymond ? Ouais, non, c'est pas sérieux. Non,
mais ça, là, ça va pas être possible.
Il y a une espèce d'écho.
Ouais, ouais, c'est.
Ça va mieux? 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 Voilà. Voilà, notre désir, en ayant accepté ce temps de témoignage, c'est vraiment de pouvoir. Non, ça va pas du tout.
Bon, je vais prendre celui-là. On s'excuse.
Dire à Dieu notre reconnaissance.
14.
C'est vraiment de pouvoir dire à Dieu notre reconnaissance pour le chemin qu'on a parcouru avec lui, parce que Cyril nous a posé des questions de type personnel, mais en fait, quand on parle de vocation, quand on parle de ministère, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui interpelle à un moment donné, c'est Dieu qui fait son chemin dans notre cœur. Alors, en fait, personnellement, j'ai grandi en fait ici dans l'église à Mérin depuis 1977, et avec Martine, on s'est effectivement rencontrés dans un camp d'évangélisation en fait à Aubagne en 1979. 2 ans après, mariage à Genève, nous étions bien intégrés dans l'église, notamment avec le coffee bar. Vous avez Paul Robert devant la caravane. Et en fait, le coffee bar, c'était 2 soirs par semaine. Nous étions sur le terrain dans la cité de Mérin. Et c'est là où finalement notre foi Et notre vie chrétienne, en fait, a aussi grandi au travers du témoignage qu'on a pu rendre auprès des jeunes. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'on a fait la reconnaissance d'Anne Béatrice et de Paul-Robert Chanson. Et on a pu aussi, et ça c'est important de le dire, entrer dans cette vision que Bernard Bailly avait pour la cité. Et la, voilà, l'idée de la caravane, de cette proximité, de toutes les activités qu'on a fait, en fait, était avec un certain nombre de personnes clés. Tout à l'heure, je parlais d'éco-lab missionnaire, d'éco comme école et lab comme laboratoire. On habitait à la rue François Besson, où il y avait plusieurs chrétiens. Et dans notre groupe de maison, en fait, il y avait Jean-Claude et Licha Saillant qui se préparaient à partir en Italie. Et il y avait aussi Claude et Christiane qui étaient entre les États-Unis, et c'était juste avant leur départ au Cameroun. Et lors d'un congrès missionnaire en Belgique, Dieu a parlé à nos cœurs en y plaçant finalement le désir d'une formation biblique. Et ce désir a été confirmé quelques mois après par les anciens de l'Église. Ça, c'était important pour nous dans notre démarche personnelle. Et nous voilà partis pour des décisions, arrêt de la vie professionnelle. J'étais cadre dans une entreprise donc de machines-outils, donc arrêt, et puis départ pour 4 ans de formation, donc 3 années d'études à Emmaüs, plus une année de stage, en fait, à l'église de Villars à Lausanne. Après ce stage, on est resté encore une année comme première année de ministère pastoral. Pardon, ouais. Voilà, merci. Après ce stage, on est encore resté une année, en fait, à Lausanne, et puis ça nous a permis de préparer notre service, en fait, en France. Après, on a pris contact avec les responsables français des différentes églises évangéliques, et ça a été une proposition d'un ministère, en fait, à Bordeaux, plus précisément à Villeneuve-d'Ornon. Et celui-ci a commencé septembre 1987, et on a déménagé avec Gilles, qui a 36 ans maintenant, voilà, qui a fait son bout de chemin aussi. Cet appel de Dieu voulait dire pour nous, ben, renoncer à une vie professionnelle intéressante, laisser famille et amis en Suisse. On avait des amis qui travaillaient à Niakoundé durant cette période-là, au Zaïre, et bien de porte à porte, ils allaient plus vite à Niakoundé que nous à Bordeaux, parce que nous, il nous fallait 14 heures pour traverser la France à l'époque. La communauté qui nous accueillait à Bordeaux, ben, c'était 15 personnes au culte quand tout le monde était là, une grande salle de culte, et alors que notre culte d'envoi, où c'était Bernard Bailly qui avait apporté le message à l'église de Villars quand on est parti fin septembre 87, eh bien, en fait, on était 150 au culte. Donc, on a passé de 150 à 15 en une semaine, un petit peu un contraste, un petit peu un choc, hein. Mais durant ces 11 années, en fait, à Bordeaux, on a eu beaucoup de joie dans toutes les facettes de l'évangélisation, de l'édification. Pendant plusieurs étés, on a eu des camps d'évangélisation où Paul Robert était venu aussi. Et puis, on a eu de nombreux stagiaires qui nous ont accompagnés. Cette photo est pour nous juste un petit clin d'œil. Peut-être, vas-y, tu peux continuer, Martine.
Là. Alors, moi, juste pour commenter la photo de droite, celle du baptême, cette jeune femme s'appelle Ebé et elle a été baptisée à Villeneuve-d'Ornon. Bon, je vous dirai les conditions, enfin, un peu le parcours. Et au mois de janvier, on avait une réunion dans l'église à Grenoble et une fille est rentrée chez elle pendant les temps de Noël et elle a dit... Mon pasteur s'appelle Jean-Marc et sa maman lui dit, et sa femme, elle s'appelle Martine. Et en fait, on a la fille de cette dame-là dans notre église en ce moment. Et cette femme, c'était une sans-papier qui arrivait dans vraiment les gens insignifiants de notre société qui ne comptent pour rien. Et elle a fait son bout de chemin. Et sa fille a fait une école d'ingénieur. Enfin, ils se sont complètement intégrés en France. Voilà, ça, c'est des fruits directs de l'accueil de ces gens qui... insignifiant aux yeux de tellement de gens. Voilà. Donc, une particularité du développement de l'Église fut la proximité d'un foyer de réfugiés, ça s'appelait autrefois les foyers Sonacotra, c'était vraiment le fond du panier, personne ne voulait aller là-bas. Des migrants africains, évidemment, ex-Yougoslavie, l'Albanie aussi, et puis j'en passe de tous les pays du monde où il y avait des conflits. Bon, on a beaucoup témoigné, on a ri, on a pleuré, on a raccompagné des gens sur les quais de gare en leur disant adieu parce qu'eux ne nous disaient pas où ils allaient, parce qu'ils étaient non recevables en France. Donc on les raccompagnait, mais pour nous protéger, ils ne nous disaient pas où ils allaient, donc on ne les a jamais revus. Voilà, des accompagnements qui étaient vraiment intenses. Après 2 ans de service à Villeneuve-d'Ornon, Jean-Marc a rejoint la pastorale évangélique qui regroupait toutes les églises de Bordeaux. Il y a contribué pendant de nombreuses années et puis on a fait beaucoup de projets de grande envergure, notamment l'accueil du bateau, l'Anastasis à l'époque, le bateau de jeunesse en mission, qui a permis un témoignage d'évangélisation et sociale, des merveilleux souvenirs. Ils ont pu remplir les cales du bateau avec des chaises de dentiste, avec plein de matériel depuis Bordeaux. Et puis on a aussi pu collaborer dans cette époque-là avec Carole Strelly, qui était la répondante de Jeunesse en mission. Un autre grand projet, c'était une exposition biblique dans une galerie marchande d'un supermarché. 400 mètres de long, on devait occuper les 400 mètres de long. On a bossé pour créer des stands pour utiliser les 400 mètres de long. On a aussi fait un festival du cycle, du film, un cycle de conférences. On a fait des piles de Bibles, comme on empile les boîtes de conserve pour faire une tour. Et on a vendu certains jours 200-300 Bibles. C'était incroyable. C'était comme ça.
Une époque.
Une époque, voilà. Et je me suis aussi beaucoup investie dans l'enseignement des enfants. Ça, c'était une bonne partie de mon ministère. L'évangélisation des enfants, les clubs d'enfants de rue. On habitait le terrain de l'église, donc il y avait tout le temps du monde à la maison. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette époque. J'ai beaucoup aimé le fait d'habiter sur place, que la maison soit un hall de gare. Moi, j'aimais bien. Voilà. Alors, nous sommes restés à Bordeaux jusqu'en 1998, donc 11 ans. Et en 1996, l'église de l'Oasis de Vénissieux, donc banlieue de Lyon, a fait appel à notre ministère pour une raison un peu particulière. C'est que sur cette photo, on voit un bâtiment en premier plan avec les volets rouges fermés. C'était le bâtiment de l'église laotienne. Et derrière, l'autre bâtiment, c'était l'église française. Donc, il fallait faire un lien aussi plus important entre les deux communautés. Et quand nous avons quitté l'église de Mérin ici, c'était Armand Heiniger qui était pasteur, donc il y avait tout ce lien avec le Laos qu'on connaissait bien déjà.
Donc 1998, ce n'est pas seulement une victoire en Coupe du Monde de foot pour la France, hein, mais c'était aussi notre déménagement à 5. On a fait le début de la Coupe du Monde d'un côté, début de la fin de la Coupe du Monde de l'autre côté à Lyon. Et puisqu'en 1989, Aline, notre fille, est née, et Rémi en 1991. À Vénissieux, on changeait vraiment beaucoup de cadre. Si à Bordeaux, en fait, on était entouré de vignes, Vénissieux, c'était ça, en fait. Hein. C'était voilà, du béton. Voilà, c'était pas la cité nouvelle. Ouais, c'était pas la banlieue tranquille, quoi. Au début, l'église était moyennement internationale, mais après quelques années, des familles de différents pays d'Afrique et plus particulièrement du Rwanda nous ont rejoints, puis des ressortissants de la Russie, d'Ukraine, d'Algérie et d'Inde. L'église a ainsi grandi non par transfert, mais par conversion. J'ai fait des rencontres étonnantes. J'avais l'impression, à des fois, de me retrouver au temps biblique avec, je repense à des jeunes femmes musulmanes qui avaient fait des songes, des rêves de Jésus et qui me disaient « Mais Jésus, c'est qui ?» Et on était vraiment dans cette période-là avec des personnes qui se convertissaient et c'était vraiment des temps qui étaient vraiment très forts. D'ailleurs, 12 ans après notre arrivée, on a eu des difficultés en interne. C'est pour ne rien vous cacher de la réalité aussi de ce qu'est un ministère. Et en fait, ces difficultés, elles avaient l'objet, en fait, la question du comment on forme un nouveau groupe de responsables dans les fameuses transitions qu'il peut y avoir dans une église. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu des tensions. Mais en fait, Dieu a agi de manière extraordinaire au travers des frères et sœurs rwandais qui avaient vécu le génocide à Kivali et avec toute la reconstruction qu'a dû y avoir pour eux. Et à un moment donné, j'entends encore cette femme dire, dans un ton de réconciliation, elle a dit « Mais en tant que chrétien, on ne peut pas ne pas pardonner. » Disons, quand ça venait d'une Rwandaise qui avait vécu ce qu'elle avait vécu, où son mari avait perdu toute sa famille à la machette, ça avait un certain poids, beaucoup plus que si moi, en tant que pasteur, j'avais dit ces paroles dans l'église. Et en fait, voilà, c'était ces temps-là, ces moments-là, c'était une période de crise qui a duré à peu près 6 mois. Voilà, ça a permis que les choses reviennent. L'église ne s'est pas divisée, il n'y a personne qui est parti, mais c'était un temps qui était compliqué à vivre et on a eu l'accompagnement et le soutien de plusieurs frères et sœurs. On réalise avec le recul que c'est dans ces moments-là où il y a eu difficulté, où il y a eu souffrance dans le ministère, qu'on a le plus appris dans notre vie chrétienne, mais aussi dans l'exercice du ministère. Bon, vous me direz, c'est presque cliché, parce que quand on relit les épîtres, de Paul, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de réalités compliquées qu'il a vécues aussi. Eh bien, quand on le vit, c'est ça, en fait, là où on apprend, là où on grandit. Ce qui était étonnant dans la manière d'agir de Dieu, c'est de constater que c'est durant cette période de ma vie que mon implication dans l'inter-église avec la présidence de la pastorale a été la plus importante. Avec des grands projets d'évangélisation, vous voyez un petit peu les photos là, salle de 2000 places, des projets locaux, de nombreuses conversions, des églises unies, bénédictions et les frais récoltés, ça a été au sein des communautés, de nombreux baptêmes, des consécrations. Durant ces années-là, Dieu m'a permis aussi de faire des rencontres assez étonnantes. Au début des années 2000, j'ai rencontré un jeune licencié en droit qui était très intéressé par l'inter-église. Je lui ai proposé de m'aider sur un projet de scène ouverte avec des concerts. Et puis, la fin des concerts rassemblait tous les jeunes dans une salle de 2000 places. Donc, il y a besoin d'aide dans l'organisation. Puis, ce jeune, il est devenu comptable. Il était disponible pour servir. Il est devenu comptable de la pastorale, alors qu'il n'avait pas du tout une formation de comptable. Bon, licence en droit, il avait les codes quand même. Puis après, il avait le désir de se former. Il est parti se former à la faculté de Vaux-sur-Seine. Il est devenu pasteur dans une église baptiste. Puis il m'a remplacé comme secrétaire général à la pastorale. Et nouvelle étape pour lui, il y a 6 mois de ça, Erwan Kloarek, c'est ce monsieur qui est là sur la photo, il est devenu le nouveau président du Conseil national des évangéliques de France. Donc l'organe fêtière qui regroupe en fait 2700 lieux de culte en fait en France. Voilà, c'est une belle histoire de chaîne de transmission, même si la dernière étape, j'y suis pour rien. Mais en fait, le début, voilà, le fait de l'accueillir, voilà, de pouvoir vivre des choses ensemble, c'était vraiment sympa, quoi.
Donc à Lyon, on a aussi pu diversifier beaucoup de choses. Et moi, j'ai aussi pu diversifier ma manière de comprendre l'enseignement des enfants. Dans ces tours étaient des enfants qui n'aimaient pas forcément être assis sur des bancs. Ça bougeait beaucoup. Donc il a fallu s'adapter pour que ce qu'on appelle l'école du dimanche ne soit pas un lieu statique, mais un lieu où ça bouge, où les enfants aient envie de venir. Donc on a dû beaucoup s'adapter, bouger les codes qui étaient traditionnels. Voilà. Et puis aussi, je suis devenue formatrice avec la Ligue pour la lecture de la Bible, pour l'enseignement des enfants. On a fait aussi beaucoup, beaucoup de marionnettes, qui étaient un moyen finalement pour transmettre l'évangile de manière assez ludique. J'étais aussi engagée dans la librairie chrétienne, la CLC de Lyon. Pendant cette période aussi, j'ai commencé à m'investir dans une association qui visite les enfants hospitalisés, faire de l'animation avec eux. Finalement, qu'on fasse de l'animation en église ou à l'hôpital, c'est toujours les enfants, c'est toujours les mêmes codes, hein. Bon, l'évangile en moins, on est d'accord, surtout dans les milieux laïcs. Mais ça n'empêche qu'on transpire toujours un petit peu ce qu'on est. Hein. Et ces 16 ans à Lyon auront été vraiment intenses et variés. Mais à nouveau, nous pouvons dire que Dieu nous a utilisés avec ce que nous étions, avec nos faiblesses et nos qualités. La question de tout à l'heure, comment encourager les gens ? Dieu ne vous veut pas différent de ce que vous êtes. Vous êtes plein de dons, il suffit de les mettre au service de Dieu, c'est juste ça. On a une coccinelle qui se promène là-dessus depuis un moment.
C'est joli, une coccinelle. C'est pleine d'espérance. Le printemps arrive.
Et en 2012 est arrivé le moment d'envisager le fait de partir de Lyon. Au début, enfin de Vénissieux, au début, l'idée était de faire une nouvelle implantation à Lyon, qui était une grande ville où il n'y avait pas tant d'églises que ça, dans un quartier où il n'y avait rien. Et le chemin ne s'est pas fait pour plein de raisons. Vraiment, le ciel était vraiment silencieux. Et puis la commission des ministères des CAEF, Communauté des Assemblées évangéliques de France, nous a proposé d'aller à Lille, mais ça nous faisait repartir loin. Et là aussi, on n'a pas vu notre chemin avec nos parents qui étaient vieillissants. Et puis l'idée de Grenoble avec l'église du Drac a été proposée. D'abord, on l'a refusée parce que nos enfants sont dans cette église, Gilles notamment. Et puis, bon là, je vous fais court sur la réflexion, nous avons accepté car avec Gilles et Magali, nous avons décidé de comment... Je ne vais pas l'écraser, moi. D'être en famille sans que l'Église soit omniprésente dans nos réunions de famille. Voilà. Et c'est au mois de juin 2014 que nous avons déménagé à Grenoble, en étant tout proche de l'Église, c'était notre choix d'être à côté de l'Église.
Donc 2014-2022, vous faites le calcul, 8 ans, c'est long et c'est court tout à la fois. Lorsqu'on y pense, on pense mariage. Sur la photo du milieu, vous retrouvez Élise, n'est-ce pas, qui est ici, qui animait la louange tout à l'heure. Voilà, et on a et son mari Nicolas qui est là-bas. Voilà, on les a accompagnés, on s'est réjouis de ces temps et de ces moments. Voilà, on pense aussi bourse aux vêtements, on pense au baptême, on pense au week-end d'église, enfin des temps de vie d'église. Mais ce qui nous a le plus marqué finalement durant ces années-là, c'est le fait que des personnes nous ont ouvert leur cœur, nous ont partagé une partie de leur vie, leurs secrets les plus personnels. Certains d'entre eux que nous avons rencontrés, en fait, lorsqu'on les a rencontrés, ils ne connaissaient pas Jésus. Et puis, en fait, le Saint-Esprit agit, conversion, puis baptême. Certains ont rencontré leur chérie, ils ont eu des enfants. Voilà, un cycle de vie. Bref, on les a accompagnés dans différentes étapes de leur vie. Mais ces rencontres, ces souvenirs, c'est ce qu'on garde, en fin de compte, à la fin. Et heureusement, les temps plus compliqués s'estompent avec le temps. Et c'est la réalité de notre humanité. Un trait commun et heureux de ces 4 temps de ministère, ce fut pour nous l'accompagnement de 6 stagiaires qui, dans la suite, auront des ministères à La Réunion, en Thaïlande, en Alsace, à Gap, à Vénissieux, à Montpellier. Et aujourd'hui, quand on voit cela, c'est à Dieu qu'on aimerait dire merci. Merci de nous avoir utilisés avec ce qu'on était pendant toutes ces années. Et quand on y pense, voir l'action de Dieu, c'est peut-être le plus grand miracle qui puisse être. Parce qu'une vie transformée, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas nos paroles convaincantes, c'est l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Et puis, pendant toutes ces années de ministère, merci à Dieu d'avoir pourvu à nos besoins économiques. Mais quand on dit ça, on passe pour des grands spirituels. Mais ce qu'on aimerait vous dire ce matin aussi, merci aussi à vous, en tant qu'Église de Meyrin, d'avoir été fidèle dans votre engagement financier, dans votre soutien moral et spirituel durant toutes ces années. Voilà, on a manqué de rien. Et Dieu a pourvu et vous avez été là aussi à nos côtés. Et l'on finit maintenant pour nous l'étape de la retraite depuis le 1er juillet. Il paraît que la retraite, c'est l'action de se retirer de la vie active, d'abandonner ses fonctions. C'est l'état de quelqu'un qui a cessé ses activités professionnelles. Définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Certains disent que c'est bien la retraite. D'autres me disent que c'est long la retraite. Bref, il faudra qu'on appréhende cette nouvelle étape de notre vie. Dernière photo. Après Genève, Meyrin, après Lausanne, Bordeaux, Vénissieux, Grenoble. Vous avez vu d'ailleurs, les églises sont de plus en plus moches au fur et à mesure de notre ministère. On n'y est pour rien, mais c'est la réalité, quoi. La photo du bas, à droite, en fait, notre lieu de culte est au premier étage et en bas, c'est une boîte de nuit, quoi. Donc, il y a une vie très intense. Le dimanche matin, quand on arrive sur le parking, il y a toujours les restes de la nuit, quoi. Voilà, donc on va faire notre temps de retraite, en fait, à Grenoble. Et donc, la Bible parle, non pas de notre retraite à Grenoble, mais la Bible parle du fait qu'il y a un temps pour toute chose. Je vous laisse ce texte d'Ecclésiaste 3. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sur le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dit avec humour, il y a là dans ces éléments des aspects que je souhaite le plus tard possible dans ma vie. Mais il est vrai aussi que là, Dieu sait. Et à nous maintenant, dans l'écoute qu'on veut faire de Dieu, de pouvoir rentrer dans un service différent, de pouvoir vivre des choses particulières liées à ce temps de retraite. Alors on est rentré dans une nouvelle saison avec un service plus ou moins actif, mais différent. Mais effectivement, on veut être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Voilà ce qu'on voulait vous partager.
Alors bonjour à toutes et tous. Oui, avec plaisir, si tu veux prier pour moi, j'en ai besoin.
Seigneur Jésus, c'est toujours un défi que tu mets dans nos cœurs quand nous désirons apporter quelque chose de ta part. Nous ne sommes que des simples hommes ou femmes et tu es celui qui peut nous remplir de ton esprit, de ton amour. Et tu l'as fait, je le crois, pour notre ami Philippe Cornu ce matin. Alors tu le bénis et tu le gardes et tu l'encourages et tu le fortifies dans ce qu'il veut partager avec nous de ta part maintenant. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.
Amen. Merci. Donc, Paul Robert m'a invité à participer. C'est bien volontiers, avec une précision sur le thème à aborder, reconnaissance et encouragement pour nos amis après 34 ans de service. Moi, j'ai un petit souvenir avec eux. Je m'étais improvisé guide touristique avec nos amis Piou et une équipe de leur église de Lyon. Ils étaient arrivés là, on avait fait une visite touristique de Genève pour des gens qui ne connaissaient pas notre ville. Donc, en réfléchissant à cette joyeuse circonstance, je pensais apporter une réflexion sur le texte par lequel Paul, l'apôtre, conclut son ministère. Je me disais, oh, c'est tout à fait pertinent de penser à ce bilan que Paul fait de son ministère en disant, en fait, il dit en substance à son jeune disciple Timothée, oh, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai une vie pleine d'aventures, mais j'ai gardé la foi après ce bon combat. Bon, je me suis ravisé parce que Paul précise dans ce même passage qu'il a achevé la course, qu'il arrive au terme de sa vie. Je me suis dit, on est en 66-68 après Jésus-Christ, Paul est vraisemblablement en prison à Rome. Ça ferait un peu moche dans le paysage d'invoquer ce texte pour deux jeunes retraités qui commencent leur liberté de retraité. Alors, je m'intéresserai avec vous, bien sûr, au contexte, c'est-à-dire aux dernières recommandations que Paul va donner à son jeune disciple Timothée, une sorte de pasteur en formation. Et on sera dans l'exhortation que Paul formule avant cette conclusion du ministère « J'ai gardé la foi ». Vous allez voir comme c'est encourageant. On va lire deux textes. Le premier, c'est une liste de qualités personnelles que Paul énumère pour décrire la société qu'il voit émerger dans un futur très proche. Alors, Perle va nous lire un premier texte.
Donc c'est 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvu de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, emporté par leur passion et enflé d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là.
Merci, mais reste avec moi. Reste avec moi. Merci beaucoup, Perle. C'est encourageant. Ah, c'est encourageant. Ah oui, pour le jeune Timothée débutant dans le ministère. Ça donne envie d'évangéliser, hein, ça, oui, on est sûr. D'autant plus que Paul ne conclut pas cette diatribe, cette description en disant « Mais efforce-toi de les évangéliser !» Non, détourne-toi de ces gens-là. Bon, alors ça ne fait pas très évangélique de dire « Ben voilà, il y a des enragés là, détourne-toi de ces gens-là. » En mon fort intérieur, je me disais c'est vrai que je suis presque sûr que ce n'est pas ce texte qui a été choisi pour la prédication de la cérémonie d'envoi de nos amis. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Et ce texte n'est que le prénom parce qu'en fait, le chapitre 3 en entier de Timothée et de Timothée 3 montre encore de nombreux revers que l'apôtre a subis. Alors nous allons voir le deuxième texte C'est le texte qui précède immédiatement le bilan de Paul, hein, juste avant qu'il dise « J'ai combattu le bon combat ». Deuxième lecture. Merci Père.
2 Timothée 4, 1 à 5. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion qu'elle soit favorable au non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
Voilà, alors vous constaterez dans cette seconde lecture que Paul en remet une couche quant à la société ambiante, mais il ne conclut pas du tout de la même manière. Il déclare sur un ton alors beaucoup plus évangélique, « Toi, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Mais est-ce que Paul se contredit ? Dans un premier temps, pour une foule qui va un peu à la dérive, détourne-toi de ces gens-là, et dans le même écrit, eh bien, fais ton œuvre d'évangéliste. Pour des gens, il dit, en effet, ils seront encore pires. Bon. On peut distinguer une différence entre ces deux descriptifs de cette foule enragée. La première description montre une société avide de plaisir, où l'individu veut, revendique une liberté qui consiste à peu près à envoyer tout promener, une société individualiste à l'extrême et égoïste et pour laquelle la fin justifie les moyens. Le pognon, l'immoralité, la violence, une description de l'individu, de la nature humaine sans frein. On dirait aujourd'hui une société devenue amorale, pas forcément immorale, amorale, qui ne veut pas de morale. La deuxième description montre une société attirée par les spiritualités, opposée à la saine doctrine, mais attirée par des enseignements, des spiritualités proférées par des maîtres, des enseignants au sens maître, gourous, qui enseignent le culte du corps, qui enseignent la conscience d'être soi-même une partie de Dieu, des promotions de la beauté, du succès, de la richesse rapide et sans effort. En somme, des doctrines qui flattent l'ego, qui prônent l'agrément et l'insouciance. Si on ne voit pas ça aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on voit. La question est, sommes-nous concernés ? Sommes-nous dans la période finale de l'histoire ou devons-nous plutôt considérer que ces descriptions ne concernent finalement que la période, le contexte de Paul et de Timothée, environ la fin du 1er siècle. Question subsidiaire, est-ce que nous observons aujourd'hui, 1955 ans après, tout ou partie des caractéristiques de cette société que Paul énumère ? Je vous fais une petite parabole pour qu'on se comprenne bien sur la manière d'interpréter. Alors je vous fais une petite parabole qui n'est pas dans la Bible, hein, que j'ai faite. La parole de Dieu est semblable à une affiche. Grand format, immense affiche, sur laquelle figure par exemple la photo d'une magnifique peinture, qu'est-ce qu'on peut aimer ? Moi j'aime bien l'impressionnisme, une peinture pleine de couleurs, magnifique, avec mille nuances, et je passe et je côtoie cette affiche, et si je la regarde de près, ou même avec une loupe, je ne vois qu'un tout petit peu des petits points de diverses couleurs, ou ça peut faire un peu comme une petite grille, des petits points qui sont désordonnés. Du reste, la presse d'imprimerie qui a imprimé l'affiche. Elle n'a très probablement pas utilisé beaucoup de couleurs, 4 ou 5, je pense. Si vous voulez des informations, vous prenez rendez-vous chez notre ami Nicolas Béroux, il vous instruit exactement sur comment on fait. Et si maintenant je prends de la distance, parce que je m'aperçois de cela, je prends de la distance, je me recule et j'observe l'ensemble de ces petits points qui semblent mélangés, alors l'image prend du sens et je vois des milliers de couleurs, tout comme on peut l'observer aussi sur nos écrans ou nos tablettes. Il convient donc d'examiner la parole non seulement sur un tout petit texte ou un verset, mais aussi le contexte et l'ensemble, pour ne pas généraliser à tort une circonstance ou un détail au risque de pondre une hérésie. Par exemple, juste après le passage que nous avons lu, le premier des passages, Paul dit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé chez Troas, à Troas, chez Carpus, et apporte également les livres, et surtout ceux qui sont en parchemin, c'est-à-dire en cuir de chèvre. » Mais quel est le sens pour nous d'un verset comme ça? Pourquoi il est dans la Bible? C'est quand même bizarre. Un parchemin, un manteau, est-ce qu'il faisait froid? Est-ce que les parchemins étaient empruntés? Ils sont peut-être précieux? Bon. Alors, je pense que bon, on peut faire dire quelque chose, même à un verset aussi insignifiant. Par exemple, 20 siècles plus tard, on se dit « Ah, mais c'est magnifique ce verset d'un manteau oublié et puis des parchemins qu'il faut apporter tout à coup au milieu d'une lettre pastorale. » Parce que ça nous montre l'authenticité de la lettre. Un auteur qui aurait voulu écrire un roman, un auteur qui aurait voulu faire un bel écrit, mais jamais, il aurait mis une phrase pareille, jamais. Et avec le recul, cette petite phrase tend à donner crédit à l'épître. C'est pour ça qu'elle est dans la parole de Dieu. Elle donne crédit. En revanche, d'autres passages sont si fondamentaux qu'on a écrit des livres entiers sur ce qu'ils disent. Alors un exemple au hasard, je n'ai pas besoin de vous citer la référence biblique. Un verset tout seul, on peut le détacher du contexte parce qu'il est tellement important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est la fin de la petite parabole. Mais si nous revenons à notre société d'enragés, décrite par Paul, sommes-nous dans la partie finale de l'histoire ou pas? Paul pensait y être arrivé. Il dit à Timothée, détourne-toi de ces gens-là, forcément de ton vivant. C'est pour l'immédiate, détourne-toi de ces gens-là. Et 2000 ans après l'exposé de Paul, il est évident qu'on est plus proche de la partie finale de l'histoire qu'au premier siècle. Et la société qu'il décrit, elle ressemble un petit peu à celle qui nous entoure et dont nous faisons partie. Aujourd'hui, les sujets porteurs, comme on dit, les sujets attractifs, les sujets qui mobilisent les gens, sont entre autres, ben justement, l'argent rapidement acquis, le bien-être, l'agrément dans toutes les situations, le politiquement correct, le succès personnel, les entreprises qui vendent la sensation, qui vendent le plaisir, ne sont pas en faillite. Aller à Aquapark, Disneyland, les grandes manifestations sportives, je ne vais pas les citer, ou musicales, les Love Street Parade, tout ça c'est très très à la mode, c'est très prisé aujourd'hui. Ce qui est porteur, c'est ce qui est fun, plaisant. Tout doit être fun, l'école, les loisirs, le travail, tout doit être fun. Et dans une société qui se déclare inclusive, on doit rejeter tout privilège, tout jugement de valeur, tout doit être équivalent. C'est au point que certains rejettent la mention du bien et du mal. Les mots bien et mal, il faut surtout pas les éradiquer. Et à contrario, les sujets pour lesquels on fait beaucoup moins de tapage, c'est la persévérance, sans succès garanti, la discipline au travail, la soumission à des consignes difficiles, supporter les contraintes, patienter pour obtenir quelque chose, la vérité dans toutes les transactions, c'est déjà un petit peu moins porteur, ça. Et ce glissement insidieux du sens du devoir vers le droit au plaisir s'observe même au niveau du vocabulaire. Le sens de certains mots est biaisé, La fidélité, c'est la fidélité à soi-même. La loyauté, c'est la loyauté envers soi. L'authenticité, c'est un peu devenu l'art d'imposer son point de vue à autrui. Le développement, c'est le développement personnel. Il faut s'imposer, il faut faire partie des gagnants, les winners, et fuir les perdants, les losers. Il faut influencer. On paye des influenceurs plutôt que de dialoguer. Il y a 50 ans, j'y étais. J'avais déjà 20 ans, plus que 20 ans. La foi chrétienne, le christianisme était une composante forte de la cohésion de la société, le lion de la société. Et aucune entreprise au monde n'a été aussi bien représentée et de manière aussi extraordinaire que l'Église. Des bâtiments dans tous les villages, nos amis nous l'ont rappelé, des bâtiments dans tous les villages, jusqu'au sommet des collines, à Fribourg, il y a des petites chapelles sur toutes les collines, des croix sur les montagnes, pour nous rappeler la croix de Jésus. À l'école, avec mes camarades d'école, on chantait des chants chrétiens. Il est né le divin enfant, on le chantait à l'école. Tout le monde savait qui était Jésus, tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé en moins d'un siècle? Alors, je vais un peu vite parce que je ne dois plus avoir trop de temps. Il y a quatre générations qui sont caractérisées après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Quatre générations, comme par hasard, il y en a une, les baby-boomers, ceux qui ont un peu comblé le déficit de population après la guerre, hein, les baby-boomers, j'en fais partie. C'est les gens nés entre 45 et 60 à peu près, grandes ambitions, travailler dur, reconstruire l'Europe, faire des sacrifices pour atteindre ses ambitions, le devoir et le maître mot. Ça, c'était les baby-boomers. Les trois générations qui suivent jusqu'à maintenant, c'est X, Y, Z, comme par hasard. Ce n'est pas moi qui les ai nommés. X, né entre 60 et 80, la fin des années de soumission. C'est mai 68, c'est la révolte contre l'autorité. Nos amis en France, la révolution à Paris, mai 68, ah ben, ils ont dégusté des graffitis contre les murs. Il y en a un célèbre qui m'a toujours fait rire, Flic, je t'aime, signé un pavé. C'était un truc qui était photographié. Hein? Les générations Y, entre 80 et 2000, influencés par l'émergence d'Internet, très influencés par Internet, on se connecte avec le monde entier, attachés à la qualité de vie, plus qu'à la carrière, valorise la formation, valorise la connaissance. OK. La génération Z, depuis l'an 2000, les millénials, génération dite silencieuse. Pourquoi la génération silencieuse? Ben parce qu'ils sont à fond sur les réseaux sociaux, ils communiquent avec leur téléphone, dans le bus, tic, tac, 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 tac. Moi, j'en aurais des nécroses aux doigts si je tapais aussi vite qu'eux, tellement ils tapent sur leur truc. Créatif, bonne formation, vision globale des problèmes, tendance à remettre en cause les règles établies. Conclusion, on avance. Ose-t-on paraphraser l'apôtre Paul dans la société qui est la nôtre lorsqu'il disait, certains cherchent l'influence, l'aisance matérielle, le succès dans ce monde. D'autres, le plaisir, les sensations doivent remplacer les réflexions. Nous, nous prêchons un Christ crucifié. Ici, la question est, sommes-nous à côté de la plaque ou pas? Est-ce que Jean-Marc et Martine ont ramé pour des prunes ou pas? Eh bien, ils nous ont bien montré qu'ils n'ont pas ramé pour des prunes. Ils l'ont très bien montré. Et maintenant, c'est encourageant. Hein, maintenant, tout l'aspect décourageant, fini, on arrive dans l'aspect encourageant en conclusion. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, « Prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie. Pour ceux qui se perdent, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. » Voici ce que déclare l'Écriture, « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des intelligents. » Alors, que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient par cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons un Messie crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Alors Jean-Marc et Martine, mission accomplie, très certainement. Mais pour nous tous, y compris nos deux amis, mission à poursuivre. Car c'est Dieu lui-même qui ajoute à l'Église celles et ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ pour leur salut. Amen.
Et nous allons effectivement, et je remercie Martine et Jean-Marc de bien vouloir présider ce moment où nous annonçons et nous rappelons ce Christ crucifié, folie, mais aussi sagesse de Dieu. Je vous laisse la parole et merci.
Juste pour introduire ce temps de la scène, avant qu'on lise les paroles d'institution, quelques versets qui, c'est dans la suite finalement de ce que Philippe nous a partagé, c'est la fin de Matthieu 28. Que texte ô combien important. Les disciples virent Jésus, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Juste trois courtes pensées. Contexte de doute, contexte d'inquiétude de la part des disciples. Jésus allait s'en aller, il leur avait dit, ça s'accomplit, c'est compliqué pour eux. On voit dans ce texte aussi que c'est que Jésus leur fait cette promesse que leur capacité en tant que disciples vienne de lui. Et ce repas de la scène qu'on va partager nous le rappelle. On peut être en situation de doute, de questionnement, même de questionnement en rapport avec la foi, il n'y a aucune honte à ça. Rappelons-nous que notre force, notre aide, nous vient de la part de Jésus, mort et ressuscité. Et puis, troisième pensée, dans ce temps de l'Avent, c'est Parole, on dit le testament de Jésus, les dernières volontés de Jésus, nous rappelle une fois encore, je l'ai déjà partagé tout à l'heure lors des questions, c'est que le désir que Jésus avait pour ses disciples qui étaient là, c'est qu'ils aillent plus loin, qu'ils dépassent même ce que lui avait fait dans un endroit bien, bien précis. Et finalement, l'invitation que le Seigneur Jésus nous fait aussi à nous, dans ce temps de l'Avent, c'est que nous allions rejoindre ceux et celles qui sont sans espérance. Rappelons-nous pas seulement le fait que Jésus est né dans une crèche, mais rappelons-nous le pourquoi il est venu. Jésus est venu pour apporter le salut à ceux et celles qui sont perdus. Perdu, c'est perdre le sens de la réalité de la vie avec tout ce que Philippe nous a partagé il y a un instant. Et encore une fois, dans ce verset, il est bien dit « allez », un impératif, ce n'est pas une option. Donc finalement, la question qui nous est posée au travers de ça et au travers du pain et du vin aussi, c'est finalement, est-ce que je vais obéir à cet « aller » ou est-ce que je vais rester ? C'est une question qui, moi, m'apparaît fondamentale pour toute la réalité de notre témoignage et de notre rayonnement en tant que chrétien et en tant qu'Église. On vous invite à lire le texte de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29.
En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois où vous en boirez. En effet, toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. »
Nous vous invitons à la prière. Dieu notre Père, nous voulons penser aussi en cet instant à la réalité de ceux et celles qui sont privés de ce repas, qui n'ont pas la possibilité de le prendre, qui te connaissent, qui ont la foi, mais qui sont empêchés, qui sont persécutés à cause de leur foi. Merci de les rejoindre par ton esprit, merci de les accompagner. Nous voulons te prier aussi pour ceux et celles qui, dans la communauté, ici à Mérin ou ailleurs, sont privés de rassemblement à cause de la maladie. Que sur leur lit de souffrance, dans leur réalité de vie, tu les rejoignes et tu leur apportes la consolation et l'encouragement dont ils ont besoin. Seigneur, pour ce pain, nous te remercions. Merci pour la réalité de tes souffrances, parce que c'est de tes souffrances que cela nous permet d'avoir la vie aujourd'hui encore. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen.
Seigneur, c'est avec reconnaissance, c'est vrai que nous prenons ce pain, ce vin, qui sont ces symboles qui sont restés pour nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous le prenons. Amen.
Amen. Amen.
Merci aux membres du groupe Mission de s'avancer. Au milieu des plateaux, il y a des petits gobelets roses avec le jus de raisin. Et puis, on m'a demandé de vous dire aussi, donc, au moment où vous avez le pain et le vin, vous pouvez le prendre tout de suite sans attendre qu'on passe tous ensemble à la fin. Voilà. Alors, merci au groupe Mission de se partager de la tâche. Voilà. Pendant ce temps de distribution de la Sainte Seine,
vous laisse vous lever pour chanter et prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Abba Père, 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 Abba, Abba, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Excusez-moi, on croit toujours avoir une voix qui porte. Et puis, voilà. Donc, merci à Élise d'avoir bien choisi les chants aujourd'hui par rapport à cette culte de fête et de réjouissance autour de nos amis. Et puis, je voulais dire que nous allons vivre maintenant un petit moment de prière autour des Pillou. Quelques personnes ont été désignées, mais il est clair que si quelqu'un désire s'exprimer, il peut le faire. Hein, on prend le temps qu'il faut, d'accord ? Donc si quelqu'un désire s'exprimer, dire aussi une prière ou dire quelque chose au Piyou pendant ce temps-là, il peut le faire dans la liberté que nous offre le Christ. Voilà. Alors j'invite les Piyou à venir ici en bas et les personnes désignées pour les entourer par la prière à s'approcher. Il faut prendre le micro. Alors venez peut-être de ce côté-là. Non.
Dieu et Père, nous aimerions te remercier parce que par ce témoignage de cette persévérance dans ce ministère, eh bien, tu nous parles. Tu nous montres combien tu peux être là et accompagner, changer des vies, et que tu nous montres encore que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Par ce témoignage de ce matin, nous aimerions te demander aussi de susciter dans cette Église cette envie de te servir pour ta gloire. Et nous voulons te remettre, Jean-Marc et Martine, que tu les bénisses pour cette suite, qu'ils puissent trouver leur place, trouver leur engagement pour la suite, pour te servir, pour être là pour toi, pour eux aussi. Et que tu les bénisses richement. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.
Cher Seigneur, moi j'aimerais te dire ma reconnaissance pour Jean-Marc et Martine, pour leur famille, pour l'encouragement que leur consécration constitue pour moi. Et je ne suis certainement pas le seul. Merci pour eux. Merci pour ta bonté qui s'est déployé dans leur vie. Merci d'avoir fait d'eux et de faire d'eux aujourd'hui des instruments entre les mains du Rédempteur. Fais-leur cette grâce d'être sel et lumière là où tu les attends encore. J'aimerais te prier pour la France, te remercier pour les progrès de l'Évangile et te demander de permettre encore que cet Évangile impacte de très nombreuses vies. Cher Seigneur, que ta grâce et ta paix reposent, s'il te plaît, sur Jean-Marc et Martine pour la saison qui vient. Accorde-leur bien des joies, privilège de la fidélité, et que ta bonté se déploie encore à leur égard et sur leur famille, sur les églises qu'ils ont servies également. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier pour ce magnifique parcours de Jean-Jacques, de Jean-Marc et Martine. Merci parce que tu as été fidèle envers eux, mais ils ont aussi été fidèles dans leur attente, dans leur cheminement avec toi. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cet exemple de vie aussi qu'ils nous donnent. Dans cette fidélité, dans les bons et dans les moments les plus difficiles, tu leur as permis de pouvoir garder les yeux fixés sur toi. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour l'avenir, avec ce nouveau temps de vie, que tu les bénisses, que tu leur donnes aussi de pouvoir faire les bons choix. Et Seigneur, que tu les accompagnes aussi avec toute leur famille, avec leurs nombreux petits-enfants, que tu leur permettes aussi de pouvoir les accompagner, eux chacun. Merci Seigneur pour cette famille. Tu veux vraiment les bénir tous, bénir particulièrement Jean-Marc et Myriam. Ouais. Seigneur, merci parce que toi tu es fidèle et toi tu ne les oublies pas. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.
bien, bonjour à tous. Alors, pour les annonces, donc tout à l'heure, nous avons le repas communautaire, vous êtes tous les bienvenus. Pour autant que vous y apportez quelque chose à manger. Non, je plaisante, vous êtes les bienvenus. Généralement, il y a suffisamment pour que même si vous n'avez rien amené, vous soyez les bienvenus. Ensuite, mardi 6 décembre, entre 12h et 13h30, un temps de jeûne et prière à la chapelle. Et puis à 20h15, atelier biblique, le Dieu qui fait alliance, une meilleure alliance, être gardien de l'alliance avec Célina Imhoff. Mercredi 7 décembre à 20h, le groupe de jeûne CTT, un groupe de jeûne de 15 à 25 ans, et j'invite Elliot à me rejoindre pour parler un peu Kanski.
Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, sûrement dernière annonce pour le Kanski parce qu'on ferme les inscriptions dans, allez, maximum 3 heures. Pour notre dernière réunion, donc si vous avez encore quelqu'un à inscrire, bah voilà, faut le faire maintenant. Donc voilà, ce Kanski qui a lieu du 27 décembre au 3 janvier, comme je l'ai déjà dit. On cherche encore un ou une aide cuisinier cuisinière. Ce serait super parce qu'on en a 3 pour l'instant, mais avec 4, on fonctionne de la meilleure manière du coup. En ce qui concerne aussi la cuisine, on a déposé une liste de denrées. Chaque année, on l'a fait du coup pour que vous, enfin si vous avez envie, pour que vous fournissiez des denrées alimentaires. Donc voilà, on a mis plein de post-it sur une table. On a eu un petit problème avec l'impression de la feuille. Donc voilà, on l'a fait un petit peu à la va-vite comme ça. On aura d'autres denrées encore qui vont arriver la semaine prochaine, d'autres demandes qui vont arriver. Mais en tout cas, on vous a déjà fourni une partie qu'on a posée. Donc juste à l'entrée là-bas sur une table. Merci de ne pas fournir autre chose que ce qui est demandé. On a vraiment mis tout ce dont on a besoin, tout ce qui est nécessaire sur les post-it. Donc voilà, c'est tout classé, enfin voilà, vous verrez. Merci pour votre attention et merci pour vos prières et vos soutiens pour le Kanski.
Merci bien. Alors, dans une autre catégorie, le fil d'argent, jeudi 8 décembre. Donc, c'est une fête ouverte à tous, avec un apéritif, un repas de midi, et puis l'après-midi avec la conteuse Marie Ray. Les inscriptions sont jusqu'au 5 décembre, donc demain, auprès de André Dufour ou de Marianne Pfund. Ensuite, dimanche 18 décembre. Nous prévoyons, après le culte, un apéro. Un apéro qui sera votre apéro, parce que c'est vous qui allez choisir comment est-ce qu'on va le passer. Les boissons sont offertes, le vin chaud et autres jus de pomme. Par contre, tout ce qui est petit four, exactement, et autres, on compte sur vous. Donc, c'est vous qui ferez la bonne ambiance ou pas. Donc, il y a la possibilité de s'inscrire. Je ne sais pas si la feuille est déjà sur le tableau blanc. En tout cas, juste de s'annoncer. Et puis surtout, on recherche du monde pour pouvoir mettre sur les tables, servir et puis surtout ranger après. Et ça, vous pourrez venir soit vers Zena, soit vers Claire-Lise, ou quand la feuille sera sur le panneau blanc, vous inscrire pour donner un petit coup de main. Merci beaucoup. Et puis, encore 2 points. Le premier, c'est une proposition de livre qui tombe bien dans ce culte mission. Anne-Marie Wenger, si vous avez des questions, pourra répondre à la fin. C'est un excellent outil pour prier pour la mission et les peuples dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Il y a un très beau commentaire sur ce livre qui vous fait vraiment voyager. Pour voir comment Dieu transforme la vie des familles dans le monde entier au travers de la prière. Donc c'est un livre qui vous fait voyager. Donc n'hésitez pas d'aller auprès d'Anne-Marie Wenger à la fin du culte pour en savoir plus. Je crois qu'il y a quelques exemplaires à disposition au prix exceptionnel de 10 francs, si je ne me trompe pas. Et Et puis, dernier point encore, merci pour votre générosité. Vous savez que l'Église fonctionne et tourne grâce à vos dons uniquement, que vous pouvez faire au travers de la corbeille à la fin, ou Twint, ou encore par l'IBAN sur les comptes bancaires. Et nous vous remercions pour cette générosité, parce que les finances sont saines grâce à vous. Merci beaucoup. Bon dimanche.
Je vous recommande de vous lever pour la bénédiction finale. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Belle journée.